Qui s'en gagne sur 94,8.
Dans la région de Louélé, en province orientale, le coton, une culture d'économie de substance pour pays paysans, n'est plus rentable. La compagnie de développement du Nord, Codenor, qui commercialisait jadis le coton au profit de la société textile de Kisangani Sotexi, n'achète plus convenablement ses tors blancs auprès des cultivateurs car devenus non viables. Ce qui décourage les paysans et les transporteurs de relancer cette culture de coton dans le bassin de Louélé. Conséquence, c'est la misère totale de la population de cette contrée puisqu'elle ne vivait que de cette culture. Aliana Lipanagama a séjourné dans cette partie de la province orientale la semaine dernière. Il va nous en dire un peu plus. Bonjour Aliana.
Et bonjour Nathalie.
Alors Aliana, que représente le coton dans cette partie de la province orientale?
Oui, Nathalie, la majorité des habitants de la partie méridionale des Ouélé vivaient des fruits de la culture des cotons comme économie des subsistances. Et pour la petite histoire, Nathalie, il convient d'énoncer que depuis l'époque coloniale où l'EVA, c'est-à-dire le caoutchouc, a perdu sa valeur au profit de l'or blanc, la population de cette partie du bassin de l'Ouélé ne cultive plus que le coton. Cette population était encouragée par des entreprises d'exploitation des cotons qui se sont succédées dans la région. On pourra citer notamment Cotoco, compagnie cotonnière du Congo. Il y a eu Office national des fibres textiles, Onafitex. Il y a eu Société textile du coton, Sotesco. Et dernièrement, c'est Codenor, compagnie de développement du Nord. Aujourd'hui, cette société Codenor donc est devenue presque non viable et est presque en voie de liquidation. Elle ne parvient plus à exploiter au maximum le coton, ni même procéder à sa vulgarisation auprès des paysans. Toutefois, Nathalie, il existe encore deux usines de battage de coton. L'une se trouve à Makongo, l'autre aux environs de Dingila. Et Makongo, je rappelle que c'est une localité qui est située justement à 75 km du poste de Dingila, qui est presque dans la plaque tournante de Côte des Nord, et c'est à plus de 200 km au nord de la ville d'Isiro. Et ce sont là les deux usines qui sont restées presque l'espoir des habitants, cultivateurs de coton dans la région des Louélé méridionaux.
Alors, sans la culture de coton, quelles seraient les conséquences dans le quotidien de ces habitants, Aliana?
Oui, comme je vous avais dit tout à l'heure, là, c'est vraiment la culture de subsistance de la population. Et s'il faut savoir la conséquence, Nathalie, c'est la misère. Ça, c'est pas démontré. Pour avoir du sel, du savon, des habits, ainsi que pour scolariser leurs enfants, la population des Dingila et dans les environs doivent vendre le coton. Mais malheureusement, pour le moment, Codenor, qui était vraiment preneur de ces cotons, qui achetait ces cotons, ne le fait plus que plus. S'il faut acheter du coton, ils font par les trocs. Et c'est cette façon-là qui décourage les agriculteurs. Je t'ai fait écouter ce témoignage, je suis de Marcelin Tedelida, c'était un des cultivateurs de coton qui s'est plaint.
Voilà, la technique est un tout petit peu en retard. Nous allons donc écouter Marcelin Tedelida, un des cultivateurs de coton.
Et puis, ça, les mambouilles. Soko tunukoli koto, sikoyo, batindi, bajan na bango, baziko ye kozo bakoto wana, na balista na banyongo. Et puis, bakye na bakoto wana, batike biso bajeton. Eko sala mikolo ebele, mususu meme mbula mobimba. Nde babandi koya ndo sikoyo na bamaputa, babandi koya na biloko ya baplastike, pona kosala troke wana. Me alor, diskite makashi siko tuko sana babiloko wana nini? Mingi babiloko wana, tozo kubwaka bwaka ngo kubwaka po, toibite valere ngo maramute. Pezo uke biso na kakao. Na kotangisa bana biso na pepo makamususu mingi tozana ngona bamboka na biso kuni tulingiba pesa mbongo pona mbongo ko kusama kamunyoso oyo okuyuko linga kosala.
Alors comment Codenor s'arrange-t-elle pour acheminer le coton traité à Kisangani sans aucun profit de la Sotexi?
Oui, c'est justement ça. Ce sont les commerçants, hein, les camionnets qui disposent des camions, des gros véhicules, qui s'arrangent avec un représentant de cette société Codenor qui est basée à Isiro pour faire ce travail d'évacuation. Et actuellement, il y a un problème de transport qui se pose pour atteindre Kisangani. Vous voyez, c'est Kisangani où se trouve l'usine, la société textile de Kisangani, Sotexi, qui consomme ses cotons pour la fabrication des tissus. Michel Madoma est un camionneur que nous avons rencontré à Isiro, lui transporte le ballot de coton de Dinguila jusqu'à Bumba pour leur évacuation sur Kisangani en parcourant plus de 700 km. Il parle de ses difficultés.
Tous allés qu'on sa la transport de Dinguila Buta. Après Buta, tous ont quitté jusqu'à Bumba. Après Bumba, tous ont quitté sur le coton, sur bateau pour monter dans Kisangani pour passer dans la Sotetski. Alors tous allés na Mukakatano Makach pour Nanzila et difficulté à transport paiement. Ils allaient en troc. Pour qu'on ne puisse pas aux oies. Aux sommes filles, mais surtout aux sommes malambongo. Maintenant, ils ont commis la condamnation. Ils viennent sauter ski. Bas à couper ça, ils ont mal à puta, bas pêcheur, bas machette. Alors, les lois transporter nous surtout bas fili. Pour n'en rien contenir, il y a liquidité pour bas oies bongo. Bas sommes même pièces et à monter qu'ils ont coquetté.
C'est vrai, ils ont vraiment des difficultés. Mais quel est le vœu de la population pour normaliser les choses, Aliana?
Oui, comme la population s'est plaint, ces cultivateurs de coton, ils veulent une chose, Nathalie, parce qu'ils veulent à tout prix que la culture de coton soit réhabilitée, parce qu'ils ne vivaient que de ça il y a plusieurs années, plus de 40 ans. Et la population, là, les cultivateurs, veulent aussi que toutes les routes soient dégagées, parce qu'il y a des gens qui transportent sous les dos pour parcourir plusieurs kilomètres où se trouvent les usines de d'ébattage des cotons. Et ensuite, il y a encore des litiges que Condenor et Sotetski ont encore vis-à-vis de cette population, à qui il a pris tous ses cotons. Et il y a un enfant que nous avons rencontré sur place, Monsieur François Ndéi, ce qu'on appelle là communément Monsieur Talangai. C'est un fils des cultivateurs. Lui aussi, c'est livre de ses activités de cultivateurs de cotons. Et on l'écoute.
Bon, si on a besoin de sol, il y a des améliorer la situation. Il y a coton d'abord, les frères de famille n'ont rien. Bah, papa n'a dit ça, il y a beaucoup de coton à Bango, le collège Sengeli, à Mouambongo, pour faire ça, on a besoin d'aller n'a rien. Quand on a transporté, il y a beaucoup de coton en espèce, et permet de consommer des échanges. Il y a beaucoup de coton, 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 il y a beaucoup de coton,
Aliana Lipanagama, merci. Je rappelle que nous aurons M. Raphaël Alimingu, il est directeur technique actuel et superviseur de la société Codenor. Il est déjà dans ce studio. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler de la situation du coton là-bas dans la province orientale. Merci Aliana.
Oui, merci Nathalie et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent dans les Ouélé pour Maïsiro.
Radio Okapi.
Okapi,
un partenariat entre la Mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Monsieur Raphaël Alimingu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur technique et actuel superviseur de la société Codenor. Vous êtes ici à Kinshasa. Pourquoi vous êtes en mission, voyage familial? En tout cas, c'est d'ici que vous intervenez.
Ok, merci beaucoup pour la question. Ma mission ici à Kinshasa, ce n'est pas un voyage familial, c'est une mission de service.
Mm-hmm.
Je suis en quête de trouver des moyens de financement pour essayer un peu de relancer les activités cotonnières dans les bases ouélées.
Mm-hmm.
Alors, il y avait un projet qui a été introduit au niveau des ministère de l'Agriculture, et quand je suis arrivé, c'était justement pour le suivi de ce dossier, Dieu aidant, et c'est très bien passé.
Alors, c'est une très bonne chose, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour votre société, mais on apprend néanmoins qu'elle est en voie de liquidation. Est-ce que cela est vrai?
Oui, madame, la Côte d'Or est en liquidation, c'est depuis la décision qui était sortie en 1997.
Uh-huh.
Alors, ça, c'est un aspect juridique. Mais il se fait que ce processus devait prendre fin en 1998. Ça n'a pas eu lieu compte tenu des événements de la guerre. Alors, les gestionnaires qui étaient là, il est rentré à Paris. Maintenant, il y avait un comité de coordination dont je suis le président qui était resté. Nous avons réfléchi autrement. Nous avons dit, si nous attendons seulement qu'on vienne liquider la société, alors le paysan sera abandonné. Avec la guerre, on va détruire toutes les infrastructures. Et la culture des cotons va disparaître dans les milieux. C'est ainsi que nous, en tant que patriotes, nous avons réfléchi avec les travailleurs, avec la population, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer un peu de maintenir cette culture. Voilà comment nous avons évolué. Et durant toutes les années de guerre ici, Je vous confirme que nous avons toujours fait des campagnes de coton, encadrer les paysans, acheter les cotons, payer, usiner et envoyer la société.
Mais que faites-vous exactement? Quelles sont les démarches que vous faites pour qu'il y ait vraiment reprise des activités dans les Ouélé, à part les entretiens que vous avez eus avec la population? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Concrètement, nous sommes fixés des objectifs. Nous avons dit, dans un premier temps, nous devons d'abord protéger les usines. Uh-huh. Et de deux, nous devons faire chaque année la campagne pour que nous ne puissions pas perdre les cotons. Uh-huh. Et de trois, il était question aussi de maintenir les groupes de travailleurs. Alors, actuellement, ce que nous faisons, nous évoluons très bien avec le paysan. Parce que si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, Sauteski ne pouvait pas bénéficier ne fût-ce qu'un tonnage des cotons fibres. Uh-huh. Alors, nous évoluons, mais nous avons des sérieuses difficultés qui font que nous n'arrivons pas, en tout cas, à faire des grandes campagnes qui pouvaient peut-être satisfaire la Sauteski.
Uh-huh. Alors, aujourd'hui, donc, vous faites tout cela. Les cultivateurs de coton de Dingila, de Makongo et autres localités dans les Ouélé vous accusent pourtant d'acheter très mal le coton. Vous le faites par troc et souvent ça prend du temps pour qu'ils aient leurs produits de troc. Comment réagissez-vous face à ces accusations, monsieur?
Oui, dire que les planteurs nous accusent, ça c'est trop dur, c'est très fort. Puisque je me rappelle très bien, imaginez depuis en 96 jusqu'à ces jours, si réellement ces planteurs étaient mécontents, même pendant la guerre, ils ne pouvaient plus continuer avec nous à faire le coton. Donc, les planteurs sont très favorables pour ce travail. C'est ainsi que, même s'il y avait des événements, les gens fouillaient, ils rentraient, on continue toujours à faire les cotons.
Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, monsieur Raphaël. Ils n'ont pas le choix parce que c'est leur gagne-pain quotidien. Ils n'ont vraiment pas le choix.
Non, ils ont le choix. Je vais vous dire une chose. Pendant les événements de la guerre ici, le paysan, il fait le coton d'abord par nécessité, ça c'est un fait, mais il le fait aussi parce que c'est là où il trouve sa source de revenus. Mmh. Alors, imaginez que nous avons, en 96, nous avons une production de 459. La production chutait des années. Mmh. Mais la campagne passée ici, avec la même population, nous avons fait 155 tonnes. Mmh. Mais les inquiétudes de la population, c'est quoi? C'est en 1993, mmh. nous avons instauré le système des trocs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dévaluation monétaire qui était continue et qui défavorisait alors les paysans. C'est ainsi que nous avons introduit ce système et le paysan était très content, les planteurs étaient très contents. D'abord, ça résolvait le problème au niveau du foyer parce qu'avec le matériel, ils touchaient directement. Mmh. Au lieu de prendre cet argent, aller boire, marier des femmes, mmh. ça c'était un avantage. Mmh. De deux, il pouvait garder l'épargne, les matériels à la maison chez lui. Mais il se fait que pour le moment, tel que nous évoluons, mmh. il y a un problème, on ne peut pas continuer toujours avec le système de troc. Mmh. Ils nous ont posé le problème. Ils demandent des matériels. Il y a des machettes qu'ils demandent, des chemises qu'ils demandent. Ça, c'est leur demande. Mais ils nous demandent aussi de payer une partie en espèces. Alors, ça pose un problème parce que nous avons aussi des comptes pour avoir de l'argent à payer ces factures-là. Voilà comment ils s'inquiètent un peu. Mais le retard est vrai. Mmh. Parce que le fait que Sauteski aussi a des problèmes, le paiement ne se fait pas au tic au tac, il faut attendre. Alors, ça bouleverse un peu les préoccupations des producteurs de coton.
Nous avons Célestin Bekabissia, il est président de la SEC du Haut-Ouélé et directeur général de l'ONG Sodebou, Solidarité pour le développement du bassin de l'Ouélé. Il est en ligne en ce moment. Bonjour, monsieur Bekabissia.
Oui, merci Nathalie. Merci, nous sommes à votre entière disposition.
Alors, vous venez là de suivre M. Raphaël Alimengou, mais ma première question serait de savoir que pense votre ONG concernant la relance du coton dans le bassin de l'Ouélé, comme vient de l'expliquer M. Raphaël Alimengou.
Oui, merci beaucoup. En fait, les cotons dans les bassins de l'Ouélé, c'est vraiment la vie des gens. C'est depuis les années 1945. Cette population, comme disait quelqu'un tout de suite là au départ, l'éditorialiste qui a introduit comment la vie du coton, comment la culture du coton a amélioré la vie des gens. Et aujourd'hui, s'il faut parler le coton dans l'Ouélé, c'est grâce d'une manière un peu plus particulière à M. Alimengou Raphaël et son équipe qui ont fait que le grain du coton soit protégé, puisque le pouvoir germinatif du coton, c'est juste une année. Au-delà d'une année, on n'a plus de grains de coton. Alors ils sont restés, ils ont commencé à distribuer les cotons, les graines de coton, et la population continue à cultiver, mais dans des conditions inabordables, des conditions tout à fait difficiles. La population elle-même n'acquise pas la Côte des Nord, puisque la Côte des Nord est un sali. Pour elle, c'est la Côte des Nord qui fait encore qu'on parle. Mais ici, la population accuse le gouvernement de la République, puisque nous avons examiné, nous, en tant que, ici, j'occupe au nom de SODEBU, Solidarité pour le développement du bassin de Luélé. C'est une ONGD qui regroupe la population, qui regroupe les habitants de Botuélé et du Bas-Luélé, donc c'est dans les bassins. Et en fait, si, par exemple, on peut parler de projets aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, et surtout la partie de la province orientale, il n'y a pas un meilleur projet qui puisse exister comme celui de la culture du coton. Puisque la population est là, elle est disposée. Il faut donner à cette population les machettes, les limes, haches ou les graines de coton, en tout cas dans 10 mois. C'est-à-dire plus ou moins 6 mois, elles vous produisent des cotons. Et vous venez avec l'argent, vous achetez, même si vous mettez votre argent. Ce n'est pas un fonds perdu, en tout cas, vous devez le récupérer. Votre projet.
Donc ça veut dire que la population continue à s'intéresser à la culture du coton.
Absolument, elle attend, elle regarde les yeux au ciel. Mais c'est puisque le Seigneur doit répondre, mais le Seigneur répond puisqu'elle vit. Mais le gouvernement, et même les ONGD qui financent des projets gauche-droite ne sont pas intéressés. Et on finance souvent des projets qui concrètement, qui n'ont pas de résultats. Ici, il y a des résultats palpables, puisque ça va encadrer la population. Et même aujourd'hui, là, on est en train de vulgariser comment faut-il lutter pour les sida. C'est un site. On va trouver ces gens dispo. Ils seront regroupés, ils vont écouter. On parle de routes et de dessertes agricoles. Mais ces gens sont prêts. Si on même leur donne des matériels, mais ils ouvrent des routes de dessertes agricoles. Mais personne ne s'intéresse.
En fait, monsieur Bekabissia, le problème là-bas, c'est un manque de matériel. Donc la population manque le matériel nécessaire pour replanter le coton et faire les autres travaux, entre autres ouvrir les routes de dessert agricole.
Oui, effectivement, il y a le manque de matériel, et même quand ils produisent ces cotons, puisque il faut avouer que Côte d'Or n'a pas de moyens. Côte d'Or va à la Sauteski. Sauteski aussi les unes en difficulté avec toutes les guerres. Et j'ai l'impression comme si Sauteski n'est pas aidé non plus. Alors, même cette population qui cultive le coton, il y a des difficultés. Là-bas, il ne faut pas perdre. Quand vous demandez la machette chez quelqu'un, il ne faut pas la perdre, puisque ça, vous les tuez. Il peut même vous tuer, vous les tuez. Mais comment avoir cette machette? On n'a pas l'argent. Okay. Voilà autant de difficultés.
Alors, je reviens à vous, M. Raphaël Alimengou. Vous êtes de Côte des Nord. Côte des Nord qui travaillait en collaboration avec la Sauteski. Mais expliquez-nous, comment est-ce que cela se passait lorsque vous fournissiez de la matière première à cette entreprise?
Madame Nathalie, je voudrais ici remercier la DG Sauteski, M. Ridia, qui, durant toutes ces années, n'a pas hésité à ménager des fonds pour nous soutenir. Donc, après avoir acheté le coton au niveau de... D'abord, nous encadrons les paysans. À la récolte, nous venons acheter. Nous traitons ces cotons au niveau des usines. Ça fait des cotons fibres. Et ensuite, nous sommes appelés d'amener ces cotons par véhicule à Isuro, par avion jusqu'à Kisangani. Mais il se fait que, avec la Sauteski, jusque-là, nous avons travaillé vraiment en parfaite collaboration.
Mm-hmm. La Sauteski... Mais qui a aussi des difficultés, la Sauteski.
La Sauteski, ce qui fait que la difficulté de la Sauteski se répercute aussi chez nous. Sauteski nous paye en tissu. Et deux fois, il nous paye aussi un peu en monnaie parce qu'on ne peut pas acheter des carburants, de lubrifiants en tissu, quoi. La Sauteski nous a beaucoup appuyé, Madame Nathalie. Si c'était la Sauteski, Côte des Nord serait disparu. Alors, imaginez que si c'était la Sauteski, même moi, je ne pouvais pas même continuer à travailler avec les travailleurs.
Mais en fait, là, vous faites un peu, vous jetez des fleurs à la Sauteski, ce qui est très bien. Mais vous-même, Côte des Nord, puisque Monsieur Bekabissia dit qu'il y a la population a des difficultés par rapport au matériel, mais vous avez dit tout à l'heure que vous avez maintenu les machines et tout ça au sein de votre entreprise.
Affirmatif. Au départ, on avait seulement une seule usine de Makongo. Mais avec l'augmentation de la production, nous avons démarré une deuxième usine, celle de Titoulé. Ce qui fait qu'il y a un nombre croissant de la population dans la culture de coton. Alors, quand nous achetons, nous amenons non seulement les tissus, mais les matériels aratoires aussi. Mm-hmm. L'année passée, ils ont commandé 500 machettes, ils ont commandé des chemises. Ça, nous avons, au moment où je vous parle, on est en train de distribuer ces machettes. Maintenant, ils attendent les moyens financiers parce qu'ils nous ont dit non. Il faut scolariser les enfants, il faut supporter les soins médicaux. Ça, on ne peut pas payer en tissu. Mm-hmm. Donc, je vous garantis que pour le moment, si on pouvait faire une mission d'évaluation là-bas, on allait trouver les gens en train de toucher leur compte.
Mm-hmm. Monsieur Célestin Bécabissia, peut-être une dernière question, parce que le temps nous fait vraiment défaut au sein de votre ONG. C'est vrai que vous avez des difficultés, mais quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous êtes confrontés et, entre autres, vous avez le financement. D'où est-ce que vous provient le financement?
Oui, merci Nathalie. Nous n'avons pas les financements non plus, c'est comme toutes les autres ONGD, mais tout ce que nous faisons, c'est une question de sensibilisation, puisque nous devons sensibiliser les gens pour qu'ils puissent garder l'outil du travail. Mmh. Et il y a eu beaucoup de problèmes ici, les gens, avec les différentes guerres, les gens ont détruit les usines, ils ont tout détruit. D'ailleurs, pour les cas de Côte d'Or, c'est même l'exception. Bien qu'on a détruit une partie, la petite partie qui reste, il faut sensibiliser les gens, de se prendre en charge.
Mais dites-moi.
Sensibiliser les gens et dire aux gens qu'ils doivent compter sur le travail. Ce n'est que par leur travail qu'ils doivent s'en sortir.
Dites-moi, monsieur Célestin.
Voilà, c'est de cette manière que nous travaillons. Et nous continuons à insister pour que le gouvernement puisse aider les unités qui sont restées, qui sont en veilleuse, mais qui sont prêtes à travailler, tel que le cas de Sotesti, qui est toujours là depuis la guerre. Il faudrait l'aider, mais surtout qu'il y a les projets.
Je pense que les choses... Je pense que, M. Célestin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Bécabissia...
Il suffit seulement un coup de pouce. Certainement, même la population, c'est le véritable développement moral, physique, intellectuel, sur le plan santé, un peu de tout. C'est ça notre objectif.
Oui. Si vous pouvez aussi m'écouter de temps en temps, M. Bécabissia, les problèmes de matériel, c'est ça, vous avez besoin de combien à peu près pour que les choses puissent redevenir à la normale? Par exemple, les machettes et tout ça.
Oui, merci Nathalie. Le matériel ici, s'il doit se donner, si on peut donner, il faut que ça se donne d'une manière objective. Par exemple, ici à Ijiro, nous sommes président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons vu certainement, il y a une distribution de matériel. Il y a, par exemple, la FAO qui a assisté la population urbaine. Nous avons vu une fois le ministre de l'Agriculture revenu avec peu de matériel, on a donné en ville. Mais nous avons toujours insisté qu'on pense également à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une cible. Par exemple, les producteurs de coton qui attendent, là c'est prêt, vraiment si on leur donne directement, il y a la production. Et c'est du fait qu'ils vont produire un travail. Et malheureusement, de ce côté-là, les gouvernements et les ONGD, même les organismes qui donnent et qui financent, n'ont jamais accordé leur attention. Puisque si l'attention était accordée, certainement là-bas. Mais Sérimène a dit là que la production ne fait qu'accroître.
Monsieur Célestin Bécabissia.
Ils vont même aller à Biliosine, usine. Mais il faut qu'on l'air assise.
Merci beaucoup, Monsieur Félicien Bécabissia. Peut-être un dernier mot, rapidement, vraiment en 30 secondes, Monsieur Raphaël.
Oui, rapidement, je voudrais ici remercier le ministre de l'Agriculture. Et entre-temps, je voudrais ici faire un appel. Donc, oui. Nous avons des sérieux problèmes. Nous, qui est en train d'assurer la maintenance de cet outil de production, mm-hmm. Si aujourd'hui, Madame Nathalie, on peut nous donner des moyens financiers et des matériels, je vous garantis que nous allons relancer cette activité et ça va faire la fierté, non seulement de la province orientale, même du pays, parce que partout ailleurs, toutes les sociétés cotonnières sont fermées.
Mm-hmm. Et vous serez en mesure même d'exporter le coton.
Oui, une fois nous satisfaisons les besoins de Sotesti, là où nous pouvons exporter. D'ailleurs, Sotesti connaît des problèmes parce qu'il doit, pour compléter son besoin, il doit importer le coton. Ça coûte trop cher avec l'importation.
Merci beaucoup, M. Raphaël Alimingou. Également à vous, M. Célestin Bécabissia. Je rappelle, vous êtes respectivement directeur technique et actuel superviseur de la société Côte des Nord et président de la FEC du Haut-Ouélé et directeur général également de l'ONG Sodebout, traduisez Solidarité pour le développement du bassin de l'Ouélé. Au revoir.
Au revoir. Merci.
marcher sans autre vue, plus de passé, m'inconnu, dans le néant du parc de la vue. Quand le monde n'existe plus, quand l'espérance oubliée disparue, quand les alcools même ne coulent plus, et si les phrases décrochées, je ne sais pas le projet qu'avance le bon sens. Les derniers sont les premiers, dans notre réalité, on se rend prince d'éternité. Dans un journal contre l'histoire, un rayon de soleil au printemps. Il fait abandonner ce que les autres ont laissé de côté. Plus assez, plus assez, que ça s'est tout dehors, pour les trucs que tu m'as les derniers sont les premiers, dans notre réalité, nous serons princes d'éternité. Les derniers sont les premiers, dans notre réalité, nous serons princes d'éternité.